Bonjour et bienvenue dans l'émission de l'Actuality, émission des lycéens. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un débat sur les scandales sanitaires. Sait-on vraiment ce qu'il y a dans nos assiettes? On va voir ça avec Laure. Bonjour Laure.
Bonjour.
Avec Alexis.
Salut.
Encore Alexis, ça va?
Bah ouais, ça va toi?
Oh, ça va, ça va. Avec Maya aussi.
Bien le bonjour tout le monde.
Et Emma, notre nouvelle chroniqueuse, la nouvelle parmi les nouvelles. Bonjour Emma.
Salut.
A tout de suite sur PFM 99.
Bah, tu m'oublies, toi.
Et il y a aussi Sarah. Et
quand
je l'oublie
même.
Toujours.
Ah là là.
Et donc, je propose de commencer le débat avec une chronique. Avec une chronique que Sarah nous a faite.
Ouais, et cette fois, j'ai mon papier. Il est là, ah. Je l'avais presque perdu. Alors, moi je vais vous parler de l'agroalimentaire en France, donc comment ça se passe, en gros, de comment on va dire les aliments sont exploités dans les champs avec les agriculteurs, etc., jusqu'à dans nos assiettes. Alors, c'est assez simple en fait, ça comprend deux secteurs, le secteur primaire donc, qui est toutes les exploitations agricoles, donc là ça va être l'élevage du bétail, les cultures tout simplement, et puis le secteur secondaire qui est tout ce qui est industriel, et donc ça va avoir plusieurs buts. Donc ça peut être rendre inerte, hein, comme on dit, donc ça peut être abattre le bétail tout simplement, stériliser le lait ou... Voilà, d'autres produits, le raffinage du sucre et du sel, extraire une partie comme tout ce qui est colorant naturel ou arôme, encore les cuisiner, donc quand on cuit des aliments, les lyophiliser, etc., les assembler pour faire des plats cuisinés, des soupes, tout ça, ou encore les conditionner, donc évidemment ils récoltent pas dans des sachets plastiques, hein, les agriculteurs. Donc voilà, et donc après tout ça ira dans des magasins, donc des grandes surfaces ou des plus petits magasins. D'ailleurs aujourd'hui, il y a de plus en plus ce qu'on appelle le circuit direct, c'est-à-dire on ne passe pas par tout ce qui est justement cette chaîne agroalimentaire, c'est-à-dire que de plus en plus les consommateurs vont acheter chez l'agriculteur directement. Donc pour tout ça, évidemment, c'est pas pris à la légère. Il y a de nombreuses mesures d'hygiène qui sont prises. Donc elles sont surveillées par des établissements publics. Hein, donc bien sûr, ce secteur avec toutes ces mesures sanitaires ne concerne pas que l'alimentation. Elle concerne aussi tout ce qui est les médicaments, le médical, tout ça. Et puis toutes les lois sont réunies dans un code qui est international et qui s'appelle le Codex alimentaire, donc qui va réglementer notamment tout ce qui est additifs, traitements comme les pesticides, qui va mettre les labels et qui va définir les procédures en cas de contamination par exemple.
Merci Sarah pour ta chronique très complète. Alors en vue des différents scandales, est-ce que ce n'est pas tout le système qu'il faut revoir au final? Qui commence?
Alors de quel système on parle?
Le système de production que ça vient d'énumérer.
Et de quel scandale?
Oui, ça c'est
le scandale. Par exemple, le scandale des œufs contaminés cet été, ou le scandale de Findus.
La viande de cheval.
Voilà, la viande de cheval. Est-ce qu'au final c'est pas la faute des industries, c'est la faute simplement du système de l'alimentaire qui va des champs jusqu'à nos assiettes, en fait.
Je trouve pas que le système soit à remettre en cause. Par exemple, pour la viande de cheval, c'est pas le système, on peut dire que ça peut être les contrôles qui ont pas été faits correctement, j'en sais rien. Ça peut être l'organisme privé qui s'occupait de la viande, justement, qui choisissait l'origine de la viande, etc. Donc le système entier, à mon avis, n'est pas à remettre en cause.
Moi, je suis d'accord avec toi, Alexis. Déjà, tu disais peut-être que les contrôles ont mal été faits. Je dirais oui et non, parce qu'au final, ils s'en sont rendus compte. Je veux dire, je pense pas que ce soit un consommateur lui-même qui soit allé étudier son plat et dire « Oh, il y a du cheval, c'est pas écrit sur l'étiquette ». Non, les contrôles ont été faits, et c'est justement pour ça que ça a fait scandale, parce qu'on l'a su après. Donc moi, je pense que c'était juste de la malhonnêteté de la part de l'entreprise, mais pas de l'incompétence du système.
Après, selon l'entreprise, ils étaient pas au courant que c'était du cheval. Donc après, qu'y croire, etc. J'ai pas eu les dernières infos.
Ça, on sera jamais. Hein.
Maya, un commentaire?
Oh non, moi, je suis là pour tousser.
Bon, au moins, tu le fais bien.
Merci.
Est-ce qu'on ferait pas des contrôles tout au long de la chaîne? Pourquoi pas?
Il est censé y avoir des contrôles tout au long de la chaîne.
Ouais, normalement, il y a des contrôles
tout au long de la chaîne. Oui, mais je veux dire, c'est à différentes étapes. Au début,
Bah, oui, mais même si on fait des contrôles, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont être respectés. Par exemple, bah, là, toujours avec Findus, le contrôle a été fait, mais le fait qu'il y ait du cheval n'a pas quand même empêché la production de faire ses lasagnes pas au bœuf.
En plus, les contrôles, ils sont faits bien avant, parce que, bon, je ne l'ai pas précisé, je ne voulais pas être trop longue, mais en fait, il y a un maillon qui vient encore avant l'agriculteur, c'est tout ce qui est bah, les fabricants d'engrais, les fabricants de tout ce qui est les produits qui vont justement servir à traiter les aliments. Et là aussi, c'est hyper réglementé, donc je pense qu'il y en a déjà des contrôles tout au long des chaînes.
Maya, un commentaire ?
Pourquoi tu reviens toujours sur moi ?
Parce que tu me regardes.
Non, j'ai pas vraiment de truc à ajouter. Je suis d'accord avec Sarah. C'est voilà.
C'est voilà. Emma ?
Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de contrôles qui sont faits. Le problème, c'est qu'il y en a qui sont plus ou moins bien faits. C'est souvent un problème dans tous ces contrôles qui résultent donc, des problèmes sanitaires qu'on peut avoir. Et je pense avec tous les contrôles qu'on peut avoir, c'est quand même dommage qu'il y ait la présence de scandales quand même.
Après, il faut dire que je ne pense pas non plus que tous les problèmes soient au niveau des contrôles, mais peut-être même des lois en elles-mêmes. Je veux dire, c'est vachement aussi dur à équilibrer entre bah, un certain taux de pesticides qu'on peut utiliser. Je prends un exemple, il y en a d'autres, mais on peut utiliser beaucoup de pesticides pour avoir plus de culture, mais en même temps ça va être plus dangereux pour la santé, il faut trouver un équilibre. Alors est-ce que les lois sont toutes bien équilibrées? Donc là ça dépend plus des contrôles.
Après, à propos de pesticides et de contrôles, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un mois et quelques ou quelque chose comme ça, il me semble que c'était un pesticide qui avait été interdit parce qu'il était reconnu cancérigène ou quelque chose comme ça, sauf que ce pesticide avait été reconnu non cancérigène par l'agence européenne. L'agence européenne qui avait pris dans son communiqué sur les résultats de leurs expériences, qui avait repris, je crois, deux paragraphes entiers venant du producteur du pesticide. Donc là, on dit souvent les entreprises malhonnêtes, mais pour moi, je trouve qu'il y a un problème là-dedans. On ne peut pas reprendre des paragraphes écrits du vendeur pour aller dans son sens.
De toute façon, les contrôles coûtent très cher à faire analyser tous ces produits. Donc du coup, est-ce qu'au final, quels acteurs de la société se devraient d'aider au contrôle ?
Bah, nous, puisque c'est nous qui mangeons après les produits. Donc en somme, si c'est pas bon ou pas bien ce qu'on mange avec le problème des engrais ou autre, c'est à nous d'aller voir, de faire... notre possible pour qu'il y ait plus de contrôle.
Ouais, mais on peut pas forcément les détecter. Par exemple, parce que toi, quand tu manges, tu repères qu'il y a eu des pesticides dedans.
Non, bien sûr. Bah non, mais en regardant les étiquettes, en se documentant sur les différents pesticides, s'il y en a qui sont plus cancérigènes que d'autres et en favorisant certains produits.
Oui, si par exemple un pesticide comme ça au hasard, je ne prends pas du tout, je ne poursuis pas du tout l'exemple de tout à l'heure, mais si par exemple un pesticide aurait été déclaré non cancérigène alors qu'il l'est.
Ah bah là, après, on peut pas tout savoir. Sûr.
Sachant qu'en plus, ce pesticide, parce que moi je vois de quel pesticide tu parles, même si j'ai pas le nom dessus, en général, quand on interdit un pesticide, il est interdit pour plusieurs années après. Ce pesticide-là sera seulement complètement enlevé de l'utilisation en 2019. C'est quand même assez loin. Donc en attendant, ça veut dire que ce pesticide qui est cancérigène, bah, on va le consommer jusqu'en 2019, à moins de faire attention. Après, c'était pas vraiment sur ça que je voulais revenir au départ. Tu disais, Laure, c'est au consommateur de faire ces contrôles. Ah, déjà, je suis d'accord avec Alexis, c'est vachement dur de faire, nous, les propres contrôles avec du matériel que forcément on n'a pas pour faire tout ça. Et en plus, aujourd'hui, on a plein de moyens de les faire. On a des tas d'applications, des tas de revues qui sortent. Est-ce que vous le faites ? Moi, je ne donnerai pas mon avis parce que oui, moi, je le fais, mais ça me prend du temps. Je me documente et tout le monde ne prend pas ce temps. Et c'est bien ça le truc, c'est que vous avez beau dire, moi aussi, il faut le faire, etc. Au final, les gens ne le font jamais. Donc vraiment, pour notre santé, c'est toujours des gens au-dessus qui doivent le faire parce qu'ils savent très bien que nous, on ne prendra pas le temps. Et en plus, on ira râler parce que c'est dangereux pour la santé et qu'ils ne l'ont pas dit. Donc ouais, c'est pas vraiment évident non plus.
Après, moi, je repense à un reportage que j'avais vu cet été, qui était en fait... Pour pas donner trop de détails, c'était un reportage qui regardait si vraiment ce que sur les emballages, on nous disait vraiment tout ce qu'il y avait dans les produits qu'on mangeait. Et Après, peut-être que ce genre de reportage, des trucs qui passent à la télé, sur les magazines, enfin, ou sur Internet, ça peut nous aider à populariser en fait la méfiance qu'on peut avoir envers les produits qu'on mange, les pesticides, tout ça. Peut-être après que il y a une part que de curiosité, je suis d'accord avec toi, une curiosité qu'on doit avoir, on doit aller se renseigner nous-mêmes. Mais après, par exemple, tomber sur un reportage une fois de temps en temps qui explique des trucs pour nous sensibiliser, ça peut être aussi une bonne idée pour qu'on apprenne à se méfier.
Le problème avec les reportages, c'est que c'est vachement long.
Ouais,
et on retombe sur le problème du « j'ai pas le temps ».
J'ai pas le temps.
Voilà, donc je trouve qu'ils ne devraient pas faire que des reportages comme ça.
Ouais, non, pas que des
ils devraient faire des choses, je sais pas, pas forcément plus condensées.
Plus accessibles, peut-être, non.
Voilà, plus court. Et par exemple, je sais pas, un truc tout con, ils mettent un truc à scanner et paf, t'as un site et t'as le résumé d'un truc comme ça. Genre, ils font un truc... Ça, c'est une idée. Bon, s'il y a des gens qui produisent des reportages qui nous écoutent. C'est très bien de faire un reportage justement sur les scandales alimentaires. Très court, très dense, mais où on pourrait retrouver toutes les informations qui ont été énoncées, par exemple sur Internet ou je sais pas.
Ah,
parce que comme ça,
ce
c'est déjà, on a pas mal d'infos en très peu de temps. Et si on veut prendre plus de temps, on sait directement où chercher.
Mm.
Et ça, on en perd moins.
Ouais.
Si on peut appeler ça perdre du temps.
Après, moi perso, je trouve important de préciser que c'est pas forcément toujours dans notre intérêt de faire tout ça.
Oui, évidemment.
C'est-à-dire que on sait très bien qu'aujourd'hui, la société, elle est beaucoup acheter le moins cher possible. Et franchement, faire autant de scandales sanitaires, de ça c'est pas bon pour la santé, ça c'est pas bon pour la santé, on va se retrouver à manger que du bio, parce que je suis désolée de vous le dire, mais il y a beaucoup de produits autres que du bio qui sont vraiment pas bons pour la santé. Et c'est cher, et je suis d'accord avec vous, c'est cher. Et le truc, c'est que ça serait vraiment très cher si tout le monde consommait que du bio. Après, ça ferait de l'emploi, ça. Mais ça serait cher, donc forcément, c'est pas non plus toujours dans notre intérêt de le faire.
Après, le bio est pas forcément très favorisé en France. Par exemple, si... Ça, c'est un truc, c'était un reportage aussi, un reportage justement court et condensé, mais qui disait que, par exemple, une information que j'ai retenue, c'était que en France... pour avoir le label bio, fallait produire bio pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, tu travailles en payant le coût du bio, en produisant comme le bio, donc moins qu'avec des pesticides et des engrais, mais t'as pas le label, donc t'es payé autant qu'avant, en payant plus.
Dans un sens, c'est normal, puisqu'il faut le temps que le sol qui, lui... Si
qui
on
est
a,
habitué aux pesticides.
Voilà, si on a été habitué à le traiter aux pesticides, il faut le temps que le sol rénumère refasse ces minéraux naturels.
Ouais, et ça va plus loin que ça encore, parce que le label, ça s'achète. Et c'est aussi pour ça que c'est si cher le bio en label, ça coûte cher. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de producteurs qui font les chaînes courtes, les chaînes directes, comme je vous en parlais tout à l'heure, et qui précisent simplement fruits ou légumes sans traitement. Moi, j'en vois de plus en plus sur le marché, où ils se font beaucoup ça à la montagne aussi. Et en fait, ils n'ont pas de label, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir un label, clairement. Mais c'est bio. Mais c'est juste pas labellisé.
C'est bio, mais ils ont pas le droit de dire que c'est bio.
Voilà.
Le terme
c'est
bio,
pour ça
ils ont pas le droit d'utiliser.
Ils n'utilisent pas le terme, mais c'est bio.
Ah, moi, je connais, parce que pour revenir sur ce que tu disais par rapport à se documenter, c'est pas forcément bien et tout. Je sais que ma mère, elle est très souvent devant des reportages comme ça. Et parfois, à table, c'est infernal parce qu'elle regarde en mode « Oh, vous savez pas ce qu'il y a dans la viande, vous savez pas tout ce qu'ils font, le poisson, c'est pareil, ce truc-là, il a été... » Machin de pesticide, à l'écouter, on mangerait plus rien. Et du coup, elle commence à beaucoup faire gaffe, comme ça. Elle achète du bio ou des fois, comme elle ne peut pas acheter du bio, il y a une petite supérette, je ne sais pas si vous voyez, genre pas loin de la place des héros, qui vend en fait, c'est des produits fermiers.
Placement de produits.
Non, 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 elle n'a pas dit la marque.
J'ai pas dit la marque, déjà parce que je l'ai oublié. Non, mais voilà, genre j'y vais souvent et... Bon, pour voir la tête des légumes, tu devines bien que c'est pas les trucs conditionnés que tu trouves dans les grandes surfaces.
Ouais, et ça, c'est d'ailleurs un aussi des plus gros problèmes d'aujourd'hui dans la consommation. Et d'ailleurs, c'est vrai, je pense que c'est en train de s'étendre un petit peu, on est en train de se décoincer un peu, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est le parfait.
Ah ouais.
C'est le parfait.
Oh, ça, c'est
les gens, ils voient une pomme avec un coup sur l'étalage.
Elle n'est pas parfaite, tu peux pas l'acheter.
Après, c'est vrai que si t'as un étalage... Et que t'as des pommes avec des pocs, tu les prends pas. Parce que t'as plein de pommes.
Bah ouais, mais... je suis d'accord. Mais en fait, le truc, du coup, c'est qu'il y a plein d'aliments comme ça qui sont gâchés alors qu'ils sont très bons et qui sont très mangeables.
Ça, c'est ça le problème, c'est que c'est pas forcément une recherche du parfait, mais c'est quand on va dans un magasin, on veut le meilleur truc. Par exemple, si tu vas dans un magasin et que tu vas acheter des pommes, je reprends l'exemple des pommes, s'il y a un POC, tu les prends pas. Si tu as un pommier chez toi, tu fais pousser des pommes et qu'il y en a une qui tombe ou qu'il y a une branche qui est arrivée dessus et que tu as un creux, bah tu la manges quand même.
C'est vrai ça.
Parce que tu ne le payes pas. On est tous des radins.
Emma, un commentaire ?
Non, mais c'est juste que bon, moi, mon père, il est agriculteur, donc il fait des pommes de terre, etc.
François découvre en live.
Pourquoi tu ne l'as pas invité ?
Parce qu'il y a du travail. Hein.
Ah ouais.
Et donc, en ce moment, bon, c'est la fin de la période des arrachages. Et donc pendant cette période, les salariés de mon père font tout ce qui est triage. Des fois, je peux aider, etc. Et je sais que pendant ce triage, c'est hyper... on enlève toutes celles qui sont coupées. Bon, celles qui sont moisies, ok, là, c'est normal. Mais toutes celles qui sont coupées, qui ont le moindre coup, la moindre tâche, on les enlève. Alors, je peux te dire que quand tous ces déchets sont... Enfin, ces déchets, entre guillemets, sont mis dans... Dans une remorque qui va partir... qui va partir à la poubelle, on se dit, ça fait quand même... beaucoup de choses qui ne vont pas être mangées alors qu'elles sont bonnes. Et c'est un gros gâchis quand même.
Alors que les pertes, on peut largement les réutiliser.
Ah ouais, ça fait mal au cœur. Ouais.
Donc limite, on connaît des gens qui sont conciliants, on leur vend des pommes de terre, on dit celles-ci, elles ne sont pas forcément belles, mais elles sont bonnes. Bon, ils vont nous les prendre. Ou alors nous, on va les manger parce qu'on sait qu'elles sont aussi bonnes que les autres.
On a parlé des labels tout à l'heure, justement. Imaginez-vous dans un supermarché... Voilà, on s'en fout de la marque. Et donc, vous voyez, je sais pas, une boîte d'œufs avec une boîte d'œufs avec un label. Vous faites confiance au label ?
Ça met en confiance, je pense. Par exemple, le label produit en Europe ou je sais pas quoi, ça permet de. Enfin, ça nous dit déjà que c'est à peu près de chez nous. Ou alors, tout ce qui est produit en France. Enfin, quand on connaît un peu les marques, on sait. On sait d'où elles viennent. Je pense que c'est pas automatique, mais c'est quand même bien.
Les labels, je trouve, c'est vraiment... ça t'incite vraiment à acheter, parce que même un label, si tu connais pas la signification... Par exemple, le label rouge, qui sait ce que c'est le label rouge ? Non ?
J'ai oublié.
Donc tu vois un truc label rouge, tu prends, parce que c'est bien, c'est marqué label rouge.
Ouais.
Donc oui, ça incite largement assez.
Moi, personnellement... Je pense que les labels, ça a une forme d'information, mais c'est pas assez. C'est-à-dire que je pense qu'on peut pas juste voir un label, « Ah, c'est produit en France, ça y est, c'est un bon produit ». Il faut savoir quand même que nous, Français, on produit des pires viandes bovines d'Europe. Hein. Juste. Donc, voir de la viande produite en France, le seul intérêt que ça pourrait avoir, c'est que du coup, il y a moins de transport, donc moins de pollution. Ça s'arrête à ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre les labels non plus pour les dieux des produits.
Non.
C'est, derrière les labels, il y a un tas de choses qui ne sont pas dites et qui mettent en confiance justement pour qu'on achète, alors que derrière, il y a aussi d'autres défauts. Dire, les labels, ils ne mentent pas, mais ils n'informent pas sur tout. Et c'est pour ça qu'il faut se renseigner plus loin encore.
Voilà, moi j'allais dire la même chose que toi parce que l'année dernière j'ai présenté un exposé sur les labels, des trucs comme ça, et j'avais vu qu'en fait il y avait vraiment beaucoup de marques de labels différentes avec des critères plus ou moins stricts sur l'utilisation de pesticides, sur les OGM, tout ça. Et en fait, de ce que j'ai ressorti sur l'exposé après, parce que quand je suis allée faire mes courses, du coup j'ai repensé à ça et tout, et je me disais en fait les labels c'est un peu comme... on va dire une garantie, genre tu te dis oh, y a trop de pesticides, trucs pas bons dans ce que je mange qui est industriel, genre oh il y a un label, du coup je mange meilleur, alors que c'est certain que d'un certain côté on mangera meilleur, mais il y aura forcément d'autres trucs, genre c'est un peu comme une mise en confiance pour moi, je dirais, genre mange-le, il y a un label, c'est bio, t'es sûr que c'est bon, c'est bio, il y a le label, pour moi c'est juste ça.
Vous y pensez au scandale sanitaire en allant faire vos courses?
Je peux dire que pour les gros, oui. Par exemple, pour le scandale avec les œufs que t'énonçais au tout début, oui, ça je faisais gaffe. Bon, après, c'était plus en rayon, donc il n'y avait plus que des œufs de poule en batterie, du coup, on n'a pas mangé d'œufs pendant 2 semaines. Mais.
Moi, personnellement, j'achèterais en supermarché, donc je peux pas vous dire.
Sarah, l'écolo est de retour.
C'est plus de l'écologie, là. C'est plus de l'écologie, c'est simplement
c'est un mode
la
de
prise
vie,
de conscience de ce que je mange.
Oui, c'est un mode de vie.
C'est un mode de vie. Que j'ai choisi.
Ça te prend beaucoup de temps ?
Ça m'a pris beaucoup de temps. C'est-à-dire que oui, j'ai passé beaucoup de temps à lire beaucoup de choses, à me renseigner, Et j'ai passé des heures dans les magasins à lire toutes les étiquettes pour savoir lequel était le produit le moins pire, mais aussi le moins cher, parce que je vous avoue, quand même, un petit peu. Aujourd'hui, forcément, il y a sans arrêt des nouveaux articles qui sortent. Là, il y a le scandale des nanoparticules qui a fait feu il n'y a pas longtemps et on est encore en plein dedans. Donc ça y est, ça me fait un nouveau truc à changer dans mon mode de vie. Donc oui, ça m'a pris du temps et ça m'en prend de temps en temps. Mais après, de là à dire que je mets 3 heures à faire mes cours toutes les semaines, faut pas abuser non plus. Quoi.
Les nanoparticules, c'est un scandale qui revient quand même très régulièrement dans tous les domaines, pas que dans l'alimentaire. Mais les nanoparticules, on en entend parler tout le temps, c'est par vagues comme ça. Et moi, il y a un moment, j'y prête plus attention. Parce que c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il n'y a pas de problème. Sauf que vu qu'on en parle souvent, tu l'oublies pas et tu fais attention. Sauf qu'après, t'en as marre et tu fais plus attention.
Mais ça devient routinier en somme.
Voilà, c'est pour ça. Je parlais des œufs, ça, j'ai fait attention. Les nanoparticules,
Faut dire qu'aujourd'hui, les nanoparticules, c'est vraiment super dur à gérer. Il y en a partout. Il n'y a aucun dentifrice, j'ai cherché. Il n'y a aucun dentifrice vendu dans le commerce qui ne contient pas des produits contenant des nanoparticules. C'est pour ça que j'en suis venue à faire mon propre dentifrice, hors sujet. Mais c'est vrai. Personne n'a entendu, je vais couper son micro. Mais ouais, je suis d'accord. Et même les nanoparticules, il n'existe pas de label encore qui dit ce produit ne contient pas de nanoparticules.
Ils veulent en créer, je crois. Ouais. Enfin, je ne suis pas sûr qu'ils veulent créer un truc pour quand il n'y a pas de nanoparticules. Quand il y en a.
Ouais, c'est mieux. C'est mieux.
Mais c'est tout simplement aussi parce que les nanoparticules, maintenant, on les utilise dans tout. On cherche un produit et forcément, il y aura une utilisation lorsqu'il va être créé ou conservé ou autre. À l'intérieur duquel on va y avoir des utilisations de nanoparticules. Donc forcément, il y en a à peu près partout.
En fait, c'est à peu près partout pour une raison très simple. Les nanoparticules, c'est dans tout ce qui est pesticides, insecticides, etc. Et donc forcément, dès que tu consommes un gâteau qui a été conçu avec du blé qui a été traité aux pesticides ou nanoparticules, dedans, il y en a. C'est pour ça qu'il y en a partout. Mais c'est utilisé que dans ce domaine-là, en général.
Et ça se perd pas, en plus. Ça se transmet partout. C'est une connerie, ce machin. tu prends l'exemple du blé. Si tu produis du blé avec des pesticides, le blé, il va être mangé par la poule. La poule, elle va pondre un œuf. L'œuf, il va te servir à faire ton gâteau.
Et il y aura des nanoparticules.
Et le scandale des nanoparticules, c'est fait pas que en France. Ni pour la viande de cheval, ce n'était pas en France. Ni les œufs. Bien souvent, les scandales, c'était dans toute l'Europe. Est-ce que l'Union européenne n'a pas, au final, un rôle à jouer dans ces scandales?
Si, il y a des contrôles européens. Justement. Il y a une agence européenne de contrôle sanitaire.
Et ça amène la question, est-ce qu'ils font bien leur boulot? Est-ce qu'ils n'en font pas?
J'avais pris l'exemple du pesticide cancérigène. Ils peuvent bien faire leur boulot, mais il y a quand même des moments, c'est pas trop le cas.
Donc il faut changer ou pas?
Je sais pas. C'est toujours dur de dire il faut changer quelque chose ou quoi que ce soit.
Pour changer, on a besoin d'argent qui sont pris... par les citoyens. Et du coup, est-ce que on est prêt à payer plus cher pour manger mieux, simplement?
Je pense que ça aura un truc à dire.
Ouais, mais c'était par rapport à la question juste avant. C'est-à-dire, est-ce qu'ils font bien leur boulot? Moi, personnellement, j'irai pas juger. Là où je suis aujourd'hui, je pense que ça me permet pas de juger parce que juste changer une réglementation ou interdire un pesticide que pratiquement la moitié des producteurs d'Europe utilisent, c'est super difficile. Et c'est pour ça que ça ne se fait pas du jour au lendemain et qu'il faut plusieurs années avant que ça soit vraiment mis en place. Donc moi, personnellement, je considère ça et je n'irai pas juger le fait qu'il faille changer ou pas. Je ne pense pas.
Je reposerai la prochaine question tout de suite après la courte pause musicale. Je vous propose de faire une petite pause pour se rafraîchir, si vous voulez bien. Tu es d'accord, Maya?
Oui, tout à fait.
Ouais, Maya, elle dort.
Non, mais je suis là.
Et tu reviens pas en toussant. Hein, parce que...
ouais. À tout de suite sur PFM 99.9. On écoute quoi, Sarah?
On écoute Underwater de Mika.
À tout de suite.
Toujours moi la victime. Bursting through a blood red sky. A slow landslide, and the world we leave behind. It's enough to lose your head, disappear, and not return again. When I fall to my feet, wearing my heart on my
sleeve. All I see just don't make sense. You are the port of my call. You shot and leaving me raw. Now I know you're amazing. Cause all I need is the love you breathe. Put your lips on me and I can live. Underwater, underwater, underwater. Enough to lose my head, disappear and not be seen again. When I fall to my feet, wearing my heart on my sleeve, all I see just don't make sense. You are the port of my call. You shot and leaving me raw. Now I know you're amazing. Cause all I need is the love you breathe. Put your lips on me and I can live. Underwater, underwater, underwater.
Nous nous retrouvons avec l'équipe de l'Actuality Team pour un débat sur les scandales sanitaires. Bonjour Maya la victime.
C'est bon, j'ai tiqueté, je suis la victime jusqu'à la fin de l'année.
Emma rigole. Bonjour Emma, c'est ta première à la radio.
Bah ouais, salut, ça va?
Ouais ouais, toi?
Bah super, nickel.
Bon, Alexis est avec nous.
Oui, c'est moi.
Ça va? Un peu dépressif. Mais...
Je vais pas te demander ça va parce que ça fait déjà 4 fois dans la même émission. Ouais. À force, on va comprendre que tu vas bien.
C'est vrai que ouais, je demande à tous si vous allez bien. Puis vous, bon, bref, Laure est avec nous.
Toujours, bonjour.
Ça va Et Sarah qui rigole.
Ça va bien.
En régie, ça va bien. Bon, bah, c'est génial. Parlons religion si vous voulez bien. Mmh. Nourriture et religion, puisqu'on parle des scandales sanitaires. Nous savons que la plupart des yaourts contiennent de la gélatine faite à partir de porc. Dans une société laïque, est-ce que c'est normal?
Bien sûr.
Bien sûr.
Bien sûr.
Bah. Argument, s'il te plaît.
Ok, alors.
Dissertation, introduction.
Alors, grand 1, petit A.
Première partie. Non, mais dans mon opinion, d'une société dite laïque, l'État ne doit pas faire la différence des religions. C'est-à-dire que, oui, genre moi, je suis musulmane, je ne mange pas de porc. Enfin, je fais gaffe à ne pas manger de porc, parce que quand même, on en trouve pas que dans les yaourts, dans les bonbons, dans plein de trucs. Et pour moi, c'est tout à fait normal que l'État n'aille pas se dire, bon, bah, comme il y a des musulmans, et ben, on va interdire que dans les yaourts en France, il y ait du porc. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal qu'ils ne fassent pas la distinction.
Je suis d'accord avec toi, Maya, parce que honnêtement, c'est justement le fait, s'ils ne mettaient pas de gélatine de porc dans les yaourts, je trouverais pas ça laïque, justement.
Voilà,
c'est ça. Parce que ça voudrait dire se plier à une volonté d'une religion, c'est alors ça. Qu'on est censé être laïque. Donc ça serait, pour moi, ce serait pas normal. Donc non, moi je pense que c'est bien.
On pourrait pas faire normal. Ça pour tout le monde.
Voilà, c'est ça.
Tout le monde soit.
Parce que si tu le fais pour l'un, après, genre.
Tout le monde va demander à.
Ouais, on va dire, genre, oui, pour nous les catholiques, faut que vous fassiez ça. Pour nous les juifs, faut que vous fassiez ça. Puis après, t'as les petites sectes aussi qui vont venir.
D'accord, merci, Maya.
ce dédain.
Est-ce qu'au final, ce ne sont pas les médias qui, a fortiori, créent les scandales?
Non, ils propagent des scandales, mais on a le droit d'être au courant quand même.
Oui,
c'est la base.
Et, oui, mais il y a des
attends,
médias
si
qui
t'avais
traitent
des
beaucoup,
risques de choper, le, choper le cancer, tu ouais. te dis ouais, bah,
j'aimerais bien être prévenu quand même.
Non, mais on entend beaucoup, beaucoup lorsqu'il y a un scandale sanitaire.
Ouais, c'est ça le problème, je pense. Ils en parlent trop.
Parce que ça fait de l'audience.
Est-ce qu'on en parle trop ou est-ce qu'ils sont en toute légitimité, c'est du bon sens d'en parler? Après, il y a informé et puis il y a aussi, je veux dire, il y a informé comme on veut en fait, les médias informent comme ils veulent.
Bah, il y a informé, je suis pour informer dans le sens donner des informations. Pas tourner autour du pot, attendre des nouvelles infos, et envoyer un envoyé spécial qui va venir, qui va patienter, bon, excusez-moi, rien de nouveau.
Bon. Moi aussi, je suis d'accord avec Alexis. Je suis pour informer, mais pas surinformer. Parce que nous, on vit dans une société où on est surinformé. Genre, par exemple, lundi matin, on va dire il y a tel scandale sanitaire. Mardi matin, on va dire bon, bah, il y a toujours ce scandale sanitaire. On ne vous donnera aucune nouveauté, entre guillemets. On va juste vous répéter ce qu'il y avait la veille. Et ainsi de suite, genre, pendant toute la semaine. Et le lundi suivant, ça fait déjà une semaine que ce scandale sanitaire a commencé. Nous avons enfin une nouvelle à vous annoncer en plus. Pendant que vous avez appris par cœur notre texte que vous pourriez présenter à notre place.
Après, t'aurais plus de chaîne d'infos en continu s'ils faisaient pas ça.
Oui, certain, mais...
Il se passe pas assez de choses dans le monde, il se passe plein de choses, mais pas assez pour... Non,
bah, quelque part
pas assez pour tenir une journée entière d'informations. C'est pas que c'est beaucoup trop, mais ils peuvent pas meubler ça en donnant des informations nouvelles à chaque fois. Le seul problème, c'est qu'ils peuvent répéter des informations, par exemple, dans la même journée, mais à des horaires différentes. Ouais, à des heures différentes, par exemple, où le public ciblé sera différent.
Ouais.
Par exemple, à 14h, c'est les retraités, à 18h, c'est les gens qui rentrent du boulot, etc. Mais répéter à 14h, 14h15, 14h30, 14h45, ça sert à rien.
Ouais.
Même si les retraités ont tendance à oublier. Mais...
Laure, un avis ?
Ouais, en fait, je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure, Maya, c'est comme quoi on était surinformés. Sauf que je trouve que les médias en font beaucoup sur un sujet en particulier. Et qu'après, ils passent pas aux oubliettes, mais ils parlent très peu de d'autres.
Ouais,
c'est-à-dire qu'il y a certains sujets qui vont être vraiment poussés à bout, voilà, où Alexis disait on va envoyer des envoyés spéciaux, machin, ça va traîner sur une semaine, alors qu'il y a d'autres sujets qui sont à peu près aussi importants, qui parlent aussi de scandales sanitaires, mais qui là sont tellement petits par rapport à la grosse chose qu'on fait de l'autre, qui passent complètement inaperçus.
Ouais, c'est ça. C'est genre, ah, au fait, il se passe aussi ça. Bah bon, ça vous en foutez.
Beaucoup d'enquêtes menées par des journalistes français révèlent que les industriels essaient de tromper le consommateur grâce à des pratiques publicitaires bien à eux. Par exemple, de nombreux nutritionnistes doutent quant à la fameuse saucisse ou le fameux saucisson sans viande. On y croit ça ou on n'y croit pas ?
Bah, moi qui mange pas de viande en dehors de... Je vais pas exposer ma vie, mais bref, moi qui mangerai pas de viande. Du coup, bah, je vais prendre mon exemple. Est-ce que je mangerai ce genre de choses ? Bah, je t'avoue que j'en ai pas vraiment d'idée. Parce que, au-delà du fait qu'il y ait pas de viande dedans, bah, qu'est-ce qu'ils ont mis pour remplacer la viande ?
C'est la même question que je me pose quand je vois ce genre de truc.
Est-ce que c'est bien, c'est un choix de pas manger de viande. Ça veut pas dire non plus manger n'importe quoi, sauf de la viande. Donc... Du coup, moi, je sais pas vraiment. Ça dépendrait toujours de ce qu'il y a dedans après, quoi.
Après, sur les producteurs qui essayent de tromper le consommateur, bon, d'un côté, c'est vrai qu'ils nous disent... Enfin, c'est pas qu'ils nous mentent, c'est qu'ils nous disent pas la vérité. C'est pas pareil. Mais d'un côté, je les comprends. Parce que le but d'un producteur, le but d'une entreprise, le but de tout ce qui se base sur quelque chose d'économique, c'est de vendre. Or, vendre, quand les gens sont pas... quand tu présentes pas aux gens... le truc parfait qui va concurrencer les autres produits, etc., tu vends pas, tu produis plus, etc. Donc d'un côté, c'est vrai qu'ils peuvent cacher des choses, mais je les comprends.
C'est comme, pour prendre un exemple tout bête, c'est genre les œufs, parce que il y a un peu longtemps, ma mère a commencé à s'intéresser aux œufs, faire gaffe si c'était de l'élevage en cage ou bien en plein air. Et du coup, une fois, elle m'a laissé devant le rayon des œufs. Elle me dit, tu vas retrouver des œufs faits en plein air, machin et tout. Et j'avais trouvé une boîte où, en fait, sur la boîte, on voyait bien, j'en voyais le grand pré, la poule, elle était contente et tout. Puis à l'intérieur, tu ouvres et au marquage, tu vois que c'est un œuf en cage. Donc rien que ça, genre, c'est un peu du mensonge.
Bah oui, mais
en même temps, c'est vrai que si on te mettait l'affiche de la poule bloquée dans sa cage toute la journée, qui marche dans ses crottes et dans sa nourriture, j'achèterais pas les œufs.
Ça fait caca une poule.
Beaucoup. Tout ce qui vit fait caca.
Vraiment beaucoup, crois-moi, j'ai des poules.
Non. Et tout ce qui vit ne fait pas caca. Les chouettes ne font pas caca.
C'est sérieux?
Les chouettes recrachent leur nourriture.
Oui, bah. Ah.
Et du coup, est-ce qu'elles ont...
En fait, on parle des scandales sanitaires, pas si la chouette fait caca ou pas.
Merci, Bah, c'est la culture.
Je vais pas faire une chronique, mais je crois que c'était pas sur ça. Bah, c'est sur cette fameuse remarque qu'on va se quitter. La semaine prochaine, émission sur les syndicats. Merci beaucoup à Sarah d'être venue pour faire la régie.
Bah, pas de souci. Hein.
Pas de souci, merci beaucoup à Laure.
Bah, de rien.
À Emma.
Bah, merci de moi.
Pour sa première, ça a été ?
Bah, ouais, super.
Super. Merci beaucoup à Maya, la fameuse victime de l'année.
On était sûr que t'allais dire ça.
Ah, bah, ça va rester là, c'est foutu.
Alors là, ouais.
Oh là là, ma pauvre.
Merci à Alexis aussi pour ses remarques.
Et on dirait un président là.
Je tiens à remercier
ma famille.
Vous, mes citoyens.
Vive la République.
Grâce à ça.
Allez,
vive l'actualité. Allez. À la semaine prochaine sur TF1.